Chapitre 8. La forêt de Rennes. 5 heures sonnaient au gros, comme on appelait l'horloge de l'hôtel de ville de Rennes, quand je contournais le terre-plein nommé La Motte, pour prendre la rue Hue, qui mène au grand chemin de Paris. Le soleil se levait derrière les hauteurs situées au-delà de la Vilaine, par-delà le bourg de Cesson. J'allais au pas, espérant que Joson me rejoindrait. Je n'étais pas riche, surtout depuis la perte de mes 5 louis. Mais le pauvre diable avait encore moins d'argent que moi, et j'étais inquiet sur son compte. Les paysans qui arrivaient pour le marché me croisaient sur la route, les uns montés sur de petits chevaux, munis de 2 mânes énormes, en équilibre des 2 côtés du bas. Les autres à pied, surtout les femmes, et portant sur leur tête des planches d'une longueur surprenante, qui soutenaient d'un bout à l'autre 2 rangées de pots de lait. C'eût été une véritable inondation si elles avaient subi le sort de Perrette. Une fois gravie la montée qui prend au pont de Cesson, la forêt de Rennes commença à noircir l'horizon. Il y avait là jadis des coupes énormes, mais qu'on va tous les jours défrichant. La partie du bois qui appartient au roi n'existera plus dans une moitié de siècle, tant les intendants usent et abusent. À l'époque dont je parle, la forêt envoyait ses dernières futaies jusqu'à 500 pas du bourg de Noyal-sur-Vilaine, où est le fameux château de velours. Bien avant d'arriver là, j'avais été dépassé déjà par 5 ou 6 cavaliers allant un à un, vêtus en demi-bourgeois et portant la peau de bique. Ils avaient à leur chapeau une branchette d'épines noires, et je remarquais bien qu'ils jetaient sur moi des regards de défiance en passant. Cela venait aussi peut-être de ce que je me retournais à chaque instant pour interroger la route derrière moi et voir si Joson Menou n'arrivait point. En touchant à la lisière des bois, je rencontrais un convoi de 30 à 40 chevaux de charbonniers portant leurs sacs noirs en pyramide et cheminant la tête basse comme des moutons. Ils avaient tous la clochette de fer au cou et toutes les clochettes étaient uniformément fêlées. Ils étaient menés par 2 grands gaillards qui leur parlaient avec des voix de tonnerre et qui n'avaient jamais permis à l'eau de profaner la couche de poussière dont ils étaient émaillés jusque dans le blanc des yeux. Il y en avait un à la tête, l'autre à la queue. Celui de la tête me salua d'un retentissant « Bonjour, notre maître, et chez vous !» Puis il ajouta en faisant claquer son fouet emmanché de cour, mais dont la corde avait bien 4 aunes « Oh, hé, hey, ha, buenas !» Le v'là, je ne mens pas. Bouinas, qui était le conducteur de la queue, me regarda en dessous, toucha son bonnet de laine et me dit « Bonjour, notre maître, et chez vous ?» Puis faisant tournoyer son fouet immense, qui éclata comme un coup de mousquet, « Oh, hé, hey, ah, chenas, c'est lui par ma fa, c'est le Judas !» Je m'arrêtai court. Comment ce diable de nom m'avait-il devancé ? Rouh ! Crièrent à la fois la tête et la queue. Je te va baiser. Ha, rouh, ha. Et toutes ces choses noires, hommes, bêtes et sacs, prenant leur course à la fois, disparurent dans un tourbillon de poussière nègre, d'où sortait la plainte essoufflée du fer fêlé. L'instant d'après, comme je traversais une clairière de lande, un petit pâtour qui gardait 3 oies vint m'offrir une branche de prunelier en fleurs, pareille à celle que tous mes mystérieux voyageurs portaient ce matin à leur chapeau. Je voulus savoir de lui la signification de cet emblème. Il emporta mon sou et se sauva dans les broussailles. Ses oies elles-mêmes s'enfuirent en criant. Je pus noter qu'elles mettaient des accents circonflexes sur tous les « a » de leur chanson, comme le veut l'accent du pays. Mais voici bien une autre histoire. J'affirme que j'étais sain d'esprit et bien éveillé, malgré ma mauvaise nuit. Je ne pensais à rien qui pût me donner la fièvre, et le temps gris qu'il faisait me mettait à l'abri de tout mirage. Je songeais, je m'en souviens, avec un sentiment de mélancolie, à la perte de mes 5 louis, qui me réduisaient à 9 livres et 12 sous pour faire la longue route de Paris, car ma nourriture et mon coucher m'avaient coûté depuis mon départ, outre mon argent de poche, 2 livres et 8 sous pris sur l'argent de mon oncle le Billan. J'étais en train de me demander si les horreurs de la faim elles-mêmes pourraient jamais me contraindre à vendre la croix d'or de ma cousine, lorsqu'un coup de feu retentit sous bois, non loin de moi. Le fourré était en cet endroit fort épais, Mon regard ne put percer les ténèbres, mais j'entendis un éclat de rire argentin qui me rappela les chères gaietés de Vivette. « C'est le Judas !» dit une voix de femme, et presque aussitôt par une allée de chasse qui coupait la grande route selon un angle très aigu, deux beaux chevaux débouchèrent. L'un était monté par un gentilhomme jeune encore et de noble mine, l'autre portait une toute jeune fille costumée en amazone avec un petit fusil sur le dos et un faisan argenté pendu à l'arçon de la selle. Deux magnifiques épagneuls gambadaient tantôt devant, tantôt derrière. Jusqu'à présent, le lecteur ne doit pas bien comprendre mon besoin d'affirmer que je n'avais point la berlue. Ce joli spectacle d'une chasseresse charmante et bien accompagnée est à sa place dans une forêt. Mais il y avait un détail que je n'ai pas encore exprimé. Je poussai un cri à la vue de la chasseresse et je fus obligé de me retenir au pommeau de ma selle pour ne point vider les arçons. « Vivette !» La jeune fille ne se retourna point, mais elle eut encore ce rire mélodieux qui avait percé une fois déjà le taillis. C'était la grâce enfantine, c'était l'éblouissante fraîcheur, c'était la superbe chevelure de Vivette flottant au vent sous les plis d'une gaze verte. Vivette montait hardiment les petits chevaux du pays de l'Orient, mais jamais elle n'avait eu le moindre costume d'Amazone. D'ailleurs, par quel miracle l'eussé-je retrouvé dans la forêt de Rennes ? Il y a des ressemblances. La chasseresse et son compagnon avaient déjà disparu sous bois. Je descendis de cheval et je m'assis sur le talus de la route, où la bruyère naine était touffue comme une fourrure. Je me sentais faible et j'avais gravement frayeur d'être fou. Taupin se mit à déjeuner d'herbes maigres et de pousses de ronces. Il faut bien que je le confesse, je m'étais arrêté là pour ne point dépasser la route de chasse dans laquelle l'Amazone avait disparu. J'espérais qu'elle allait revenir. Désormais, marcher du côté de Paris, c'était m'éloigner d'elle. Instinctivement, je m'étais abrité derrière une touffe de bruyère pour ne pas frapper de trop loin son regard lors de son retour. Ce n'était pas Vivette. L'impossibilité me sautait aux yeux, mais c'était pour Vivette que je voulais la revoir. Je restai là une grande heure, me disant à moi-même que j'attendais Joson, et tout étonné de l'émotion qui me battait le cœur. D'abord, je ne vis rien, parce que je ne regardais rien. Mais il me sembla bientôt que tous les voyageurs, tournant à la même place, quittaient la route pour prendre la coulée où le vivant portrait de ma cousine s'était perdu derrière les branches. Ce n'étaient pas seulement les gens venant de Rennes qui prenaient ce sentier. Du côté de Vitré aussi, et de tous les coins de la forêt, on semblait converger vers ce but, comme si la coulée eût mené à un pèlerinage. Charbonniers, sabotiers, paysans enfilaient tous la même voie, et pendant que je me reposais, je comptais jusqu'à 5 de ces cavaliers qui portaient à leur chapeau des branchettes d'épines noires. Ce singulier concours finit par exciter en moi une curiosité irrésistible. Ce que je me représentais, je ne saurais le dire, mais l'Amazone était là-dedans avec sa taille ondulante et ses doux cheveux caressés par le vent. Le nom de Vivette s'obstinait sur mes lèvres. Je me remis en selle et, au lieu de poursuivre la direction de Paris, je traversai la grande route. Je m'alléguai pour prétexte à moi-même que cette petite excursion donnait du large à Joson Menou et que, s'il venait à passer en mon absence, je le rejoindrais toujours bien puisqu'il était à pied. « Mon homme, » demandai-je à un ramasseur de bois mort qui me croisa chargé de son fait, « où conduit cette percée ?»« Bonjour, notre maître, et chez vous ?» me répondit-il d'un air goguenard. « Vous savez ça mieux que moi, je ne mens pas !» Et il ajouta, quand il fut passé, « tout un chacun qui dévale à la fosse aux loups sont trop renardés, malins comme des renards, pour ne point connaître les sentes. » J'allais donc à la fosse aux loups. Dans presque toutes les forêts de Bretagne, il y a un fond ou un cul-de-sac qui porte ce nom. La forêt de Rennes en a deux pour sa part. Les grands bois de Kéramour avaient aussi leur fosse aux loups, marquée de 5 tables druidiques et qui possédaient en outre une oreille de mer. L'oreille de mer est une excavation naturelle par où les gens de beaucoup de courage peuvent, en descendant toujours, pendant des lieues et des lieues, arriver jusque dans les maisons d'émeraude qui sont sous les profondeurs de l'océan. Je n'avais pas fait 200 pas dans la coulée qu'un son de trompe fut donné sous bois à droite de moi. Un autre mot pareil fut répondu au loin. Me faisait-on l'honneur de sonner mon rambuchet ? À mesure que j'allais, la sente se rétrécissait et le bois alentour devenait plus épais. La route dévalait constamment, selon l'expression de mon ramasseur de bois mort. Elle me conduisit à une espèce de marécage, formée par la petite rivière de Vanvre. Taupin le traversa à gué. Il y avait de place en place des roches posées pour le passage des piétons. Immédiatement après le marais, une motte ronde s'élevait, plantée de vieux châtaigniers qui n'avaient pas grandi. Au centre de ce bois sacré, il y avait une chapelle étroite et basse, au mur tout gris de lichen, puis une courte montée, au sommet de laquelle les chênes trois ou quatre fois séculaires prenaient des proportions inconnues au pays de Bretagne. Puis encore un plateau assez vaste, couvert d'une magnifique coupe de 100 à 120 ans, qui aboutissait à une descente, ou plutôt à une chute brusque, donnant sur un paysage de peu d'étendue, mais agrandi par cette sombre et religieuse terreur qui semble naître des souvenirs druidiques.